Ça tombe bien ce matin, mon message est sur le pardon, tu vois? Comme quoi, c'est de circonstance. Alors, ce matin, pour commencer, je voulais vous lire une histoire. En fait, cette histoire, je suis tombé dessus, ça date, on a l'impression que c'est il y a longtemps. Pourtant, quand on y était, on avait l'impression qu'on s'en sortait jamais, c'était pendant le Covid. J'ai entendu cette histoire que j'ai lue dans un article de Ouest France. Vous allez dire, il a une vie passionnante, il lit même des articles de Ouest France. Mais bon, je suis tombé sur cette histoire et je me suis dit à l'époque, ah purée, ça serait vraiment l'occasion d'en faire un message, en tout cas le support d'un message, tant que c'était vraiment une belle histoire. Et puis finalement le temps a passé, on est 3 ans quasiment plus tard, et le Seigneur m'a remis cette histoire en tête en me disant c'est le moment de le ressortir. Et cette histoire, eh bien je vais vous la lire, je vous propose de vous la lire et puis d'y revenir juste après. Hop, voilà, c'est l'histoire d'une femme, Noëlla Rouget. Ça en a fait même un livre, hein. Elle en a fait un livre. C'est le livre, le titre, c'est La déportée qui a fait gracier son bourreau. Je vous lis l'histoire, enfin l'article de Ouest France que j'ai retrouvé, et puis on y revient juste après. Alors l'article dit que donc l'ancienne résistante est déportée, Noëlla Rouget, qui avait fait gracier son bourreau en 1966, est morte dimanche à Genève à l'âge de 100 ans. A annoncé ce lundi l'Élysée. Le président de la République a salué dans un communiqué une partisane de la liberté qui donna aux valeurs de fraternité et de pardon leur incarnation la plus haute. Née le jour de Noël 1919 à Saumur, dans une famille de fervents catholiques, Noëlla Rouget, née Podo, avait 20 ans quand elle entra dans la résistance, faisant transiter des colis pour le mouvement gaulliste Honneur et Patrie et pour un réseau des services d'espionnage britannique. En juin 1943, alors qu'elle venait de se marier avec un autre résistant, Adrien Tigeau, tous les deux furent dénoncés et arrêtés. Adrien fut torturé et fusillé dans les jours qui suivirent. Noëlla, elle, fut déportée dans le camp de concentration de Ravensbrück. À la fin de la guerre, toujours en vie, elle fut soignée en Suisse pour la tuberculose. Et là-bas, elle rencontra un autre homme avec qui elle se maria et s'installa du coup à Genève. Ensemble, ils eurent 2 enfants. Mais tout bascule en 1962, quand elle est rattrapée par son passé avec l'arrestation de Jacques Vasseur, ancien membre français de la Gestapo, responsable de 310 déportations, dont celle de Noëlla, et de 230 morts, dont celle de son ancien mari, Adrien. Opposée à la peine capitale contre l'esprit de vengeance, elle avait alors plaidé la mansuétude devant la Cour de sûreté de l'État qui avait alors condamné Vasseur à la guillotine en 1965. Elle supplia alors le général de Gaulle d'accorder la grâce à Vasseur et l'obtint en février 1966, la peine de mort étant alors remplacée par de la prison à vie. Elle écrivit alors ensuite régulièrement à Vasseur, son bourreau, en prison, demanda même de le rencontrer sans jamais obtenir le moindre signe de repentance de sa part. Mais le plus important pour elle était ailleurs. Elle avait alors fait sa part des choses. Devant qui, on ne sait pas. Mais en tout cas, la sensation d'avoir fait la part des choses. J'ai vraiment été beaucoup interpellé, j'ai pas lu le livre, mais par cette histoire. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est beaucoup de choses. Et la première chose, c'est toute la dimension finalement humainement surhumaine de la notion du pardon. Qui d'entre nous, dans de pareilles circonstances, aurait dit « je vais pardonner à mon bourreau » et je vais même demander qu'il ne soit pas condamné à mort, mais que sa condamnation soit transformée en condamnation en prison. Moi, je me suis mis à sa place l'espace d'un instant et je me suis dit, humainement parlant, dans un premier temps, je me serais dit « maintenant qu'il meurt, peut-être ». La nature humaine est comme ça. Mais finalement, derrière cette histoire, finalement, tout ce qui ressort, et moi, ce que ça m'a fait penser et écho forcément, c'est le cas de Jésus. Jésus, finalement, bah, c'est Dieu fait homme, fils de Dieu, et qui est venu sur terre pour mourir pour nos péchés, pour le pardon de nos péchés, et même le pardon de nos péchés les plus impardonnables. Mais il l'a fait. Il a fait cette grâce. Il nous a fait cette grâce. Et finalement, toute cette dimension du pardon que l'on retrouve dans cette histoire, on la retrouve surtout, avant tout, déjà dans l'exemple même de Jésus. Et bien malgré ça, comme j'ai pu vous le dire juste avant, ma question que je me suis posée, c'est, vous savez, depuis que moi je suis tout petit, quasiment, je vais à l'église, le pardon, on en entend beaucoup parler. Des messages sur le pardon, peut-être que vous en avez entendu beaucoup. Pourquoi? Parce que le pardon, par l'action de Jésus sur la croix, c'est le fondement même de notre foi chrétienne. C'est le fondement même. Mais vivons-nous réellement cette réalité du pardon comme Jésus l'a donné dans nos vies? Est-ce que nous pardonnons facilement à nos frères, à nos sœurs, à nos amis, aux gens qui nous embêtent au quotidien? Et est-ce que nous acceptons que Jésus nous a pardonné? Est-ce que nous nous pardonnons même vraiment nous-mêmes? Est-ce que toute cette dimension du pardon, donc, nous la vivons dans notre vie? Je crois que le Seigneur, ce matin, désire vraiment, plus qu'un simple message, peut-être parmi tant d'autres sur le pardon, nous remettre face à cette réalité dans nos vies. Et pour cela, j'ai un verset que j'aime bien dans Colossiens 3:13 et qui m'a été mis sur le cœur, c'est celui-ci. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et j'aime bien parce que tout est résumé finalement là-dedans, dans ce simple verset-là. Et notamment, toute la difficulté, toute la problématique du pardon tel qu'on peut le concevoir humainement. Supportez-vous les uns les autres. Qui a raison de se plaindre d'un autre? Vous savez, on est dans une vie aujourd'hui où qu'est-ce que c'est dur des fois de se supporter, de supporter son voisin, de supporter son collègue. On est dans une société où on a tout plein de raisons de se plaindre de tout le monde. C'est vrai ou non? Ou pas? Oui. Dominique se plaint régulièrement de moi, par exemple. Mais face à ces situations, est-ce que nous pardonnons? Est-ce que nous pardonnons vraiment? C'est une véritable problématique, une véritable question. Et ici, on se rend compte que finalement, souvent, on voit la notion de pardon comme « je dois pardonner », je prends l'exemple Dominique, mais bien sûr, je la taquine, mais c'est une question entre nous deux. Non, ce verset montre que finalement, la notion du pardon, c'est pas une dimension en deux dimensions, mais en trois dimensions. Et que quand on parle de pardon, il y a l'un, il y a l'autre, mais il y a Christ aussi au milieu. Et c'est pour ça que mon message ce matin, le titre en tout cas de ce message, sera donc pas simplement de parler le pardon vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis des autres, mais les trois dimensions du pardon. C'est-tu un schéma que l'on doit voir en trois dimensions? Petit côté prof de maths, forcément on va vous faire quelques cours. Je vais vous faire un petit cours sur les volumes et la trois dimensions, ça va vous rappeler quelques bons souvenirs, j'imagine. Et pour cela, donc ce matin, je voulais donc essayer de traiter ce sujet de trois points de vue. Forcément, on est dans le trois dimensions, donc trois points de vue différents, au regard aussi de ce que la Bible et la parole de Dieu nous montrent, et d'essayer de vraiment prendre comme une prise de conscience encore plus forte de tout cela. Et la première partie, je l'ai appelée « Jésus est mort pour le pardon de nos péchés ». C'est la première partie, c'est la base. C'est la base, comme j'ai pu le dire, parce que c'est ce qui nous réunit aussi ici ce matin. Et pour illustrer ça, j'ai sorti un verset. Alors, des versets sur Jésus qui est mort pour le pardon de nos péchés, il y en a plein. Mais j'en ai ressorti un qui me semblait pertinent ici. C'est un verset que l'on retrouve dans Actes 13, enfin c'est deux versets même, 38 à 39. Sachez-le donc, mes frères, c'est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libéré par la loi de Moïse. Et c'est intéressant ce verset. Il y a beaucoup de choses à retenir. Enfin, j'essaie d'en retenir quelques-unes, mais déjà au moins de résumer ça en trois points. Et le premier des points, qui me semble important, on l'a déjà dit, mais je vous dis, c'est la base, donc il faut commencer par ça. Il faut le rappeler, en mourant sur la croix, n'oublions pas que Jésus a ouvert la voie vers le pardon de nos péchés. C'est un don gratuit que nous offre le Père Céleste. C'est important de le rappeler, même si c'est vrai que c'est quelque chose peut-être que nous entendons régulièrement, peut-être que c'est la première fois que tu viens ce matin, mais c'est la base même. C'est la base même. Cette idée est la base même de notre foi. Vous savez que l'on soit catholique, réformé, protestant, tout ce que vous voulez, toutes les branches, la seule chose, il y a des choses qui peuvent nous différencier, mais une des choses qui nous relie tous, et on ne peut pas le nier, c'est ça. C'est l'œuvre de la croix. C'est Jésus qui est venu. Dieu a envoyé son Fils unique afin de quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Pourquoi? En passant par le pardon des péchés. Et c'est important de le nommer. C'est comme si nous avions besoin, et Seigneur, au moment où je préparais ce message, nous disons, mais prenons conscience de cela. Vous savez, comme je vous l'ai dit, je suis né dans une famille presque chrétienne. Mes parents se sont convertis à l'âge d'un an. Donc pour moi, j'ai eu la sensation d'avoir toujours été à l'église. Et donc j'ai donné ma vie à Seigneur, je pense que je vais avoir 10 ans. Je me suis fait baptiser à l'âge de 16 ans. Mais je n'ai pris conscience de cela qu'à l'âge de 18 ans. Tout bêtement, avec mon frère Timothée, on est allé voir à deux le film La Passion du Christ. Et c'est dans le cinéma, face à ces images, que j'ai pris conscience de l'œuvre de la croix, que Jésus est mort pour le pardon de mes péchés. J'en suis sorti avec mon frère, on a vécu la même chose, on a chialé tous les deux. Pourtant, on allait à l'église depuis 18 ans, mais le Seigneur ce matin veut vous dire, prenez conscience de ce que cela représente, de ce que cela représente. Le deuxième point qu'on peut retenir, c'est que le pardon, selon Dieu, il est entier, il est parfait. Il surpasse tout et doit nous ouvrir à nous, l'être pardonné, une pleine libération. Une pleine libération. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que ce matin, j'ai envie de dire, si nous avons la conscience du péché, du pardon des péchés, comme Jésus le montre, ça doit nous offrir une pleine libération. Si tu n'as pas une pleine libération, c'est que tu n'as peut-être pas pris totalement conscience de ce que Jésus fait et ce que Jésus a fait. C'est important. Vous savez pourquoi ? Dans les prisons, il y a des aumôniers. Vous avez déjà entendu parler des aumôniers ? Donc c'est des gens qui rendent, qui ont cette mission d'aller rendre visite aux prisonniers pour leur parler justement de cette dimension de foi. Vous savez pourquoi il y a des aumôniers en prison ? Parce que les lois humaines, mes frères et mes sœurs, elles condamnent. Mais les lois humaines, elles ne pardonnent pas. Et ces gens qui se retrouvent en prison, ils sont condamnés. Mais ils ne sont pas pardonnés. Souvent, ils ne sont pas pardonnés. Et notamment pardonnés avec eux-mêmes. Et ici, l'œuvre de Jésus, elle va plus loin que ça. Je crois que Jésus libère pleinement, au-delà même de la notion de condamnation. Il ne condamne pas, il libère. Et l'œuvre du pardon n'est pas pour condamner, mais pour te libérer. Et vous savez, les lois, donc comme on les établit humainement, elles condamnent, mais elles ne libèrent pas. Et parfois même aussi, nos propres lois personnelles nous condamnent et ne nous libèrent pas. Je vous donne un exemple tout bête, mais c'est par exemple, combien de chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à se pardonner à eux-mêmes ? Ah oui, Jésus me pardonne, mais je ne me pardonne pas à moi-même. Pourquoi ? Ah, parce que je regrette tellement ce que j'ai fait. Je regrette tellement. Non, parce que Jésus t'a pardonné, accepte ce pardon. Et parce que Jésus t'a pardonné, tu dois être libéré de cela aussi. Tu dois être libéré. Il te pardonne entièrement. Et même tes lois personnelles qui te condamnent, Jésus les balaye d'un revers de la main pour te libérer. C'est super important de prendre conscience de cela. Accepte donc que Jésus pardonne et te pardonne aussi. Amen. Chape de plomb, ça va. Et attention, si ce pardon divin est puissant, il n'est pas question que nous jouons avec. C'est vrai que jusqu'à maintenant, je vous présente un tableau idyllique. Accepte, Jésus te pardonne, tu es pleinement pardonné, plein de liberté, c'est beau. Jésus est venu, c'est gratuit en plus. Si ça, c'est pas beau. Pas beaucoup de choses qui sont gratuites aujourd'hui. Ça l'est et ça le restera. Vous savez, si je dis ça, c'est parce que peut-être que ça ne vous est jamais arrivé, hein. Bon, ça arrive peut-être pas ici. Dans d'autres églises, peut-être que ça arrive, que des chrétiens disent, ok, ou se sont dit peut-être une fois, vous, moi, je suis tenté. Je serais bien tenté de pécher. Tiens, je serais bien tenté de voler ce petit truc qui traîne. Ah, je serais bien tenté de faire ceci, cela. Bon, allez, je vais le faire. Au pire, c'est pas grave. De toute façon, Jésus va me pardonner. Je demanderai pardon. C'est vrai. Peut-être qu'on se le dit. Des fois, on se le dit en rigolant entre nous. Je vais pécher, mais c'est pas grave. Dimanche, je demanderai pardon. Puis dimanche en plus, comme ça, c'est parfait. C'est bien. Non, mes frères et mes sœurs, je pense que on ne peut pas jouer avec la notion de pardon. Et c'est important de le dire aussi, parce que je crois que dès que l'on a conscience et qu'on prend pleinement conscience de l'œuvre de Jésus à la croix, et notamment pour le pardon de nos péchés, il n'est plus question, mes frères et mes sœurs, de jouer avec, de tricher. Non, parce que Jésus, lui, n'a pas triché avec ça. Et il ne triche pas avec nous. Pourquoi je vous dis ça ? C'est pas pour vous mettre une chape de plomb ou vous condamner ou quoi que ce soit, mais il y a un verset quand même qu'on a vu, on en parlait avec mon épouse, elle me le lisait, vous savez, avec Church Renewal, elle refaisait les leçons qu'elle a loupées. Vous avez entendu parler de ça, et puis elle était en retard. Vous voyez, je la pointe. Hein ? Mais c'est bien parce que finalement, en relisant ces leçons, elle me partage, et moi je prends conscience de choses après. Et elle m'a lu ce verset, elle m'a dit, ouais, il est fort quand même ce verset. Je dis, vas-y, dis-le-moi, je l'ai retrouvé, Matthieu 12, 31. C'est pourquoi je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint, non. Alors, on pourrait rentrer dans le détail, théologique, c'est très, très costaud. Mais par rapport à la situation là, moi ça m'a fait tilt tout de suite dans ma tête. Je me suis dit, c'est vrai que finalement, quand on accepte Jésus dans notre cœur, qu'on a conscience de la dimension du pardon de Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous a révélé ça dans notre cœur. Et bien, à partir du moment où on a cette prise de conscience, on ne peut pas tricher contre le Saint-Esprit. Et finalement, dans ce cas-là, dire ben, « je vais pécher, pas grave, le Seigneur me pardonne », c'est un peu comme un blasphème contre l'Esprit-Saint. Surtout si l'Esprit-Saint, au fond de ton cœur, te dit « non, ne le fais pas ». Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire le tableau idyllique, si on suit la Bible, ce qu'elle dit, que Jésus pardonnerait tout, ben là, peut-être que le Seigneur ne te le pardonnerait pas sur l'instant. Waouh, alors là je vous ai mis une ambiance de dingue, vous êtes heureux, je sens. Non mais c'est important, c'est juste, je ne veux pas mettre une chape de plomb, mais je veux qu'on prenne conscience de l'importance du... Et ça en fait partie de cette dimension-là. La deuxième partie, il n'y a pas meilleur justicier que Jésus. Et il est le seul. Et il est le seul. Et donc un verset qui illustrerait bien ça, c'est dans Luc 23, verset 34. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ces événements et les tirèrent au sort. On a rigolé ce matin, on en parlait avec... on faisait référence à ce verset ce matin, mais il est important. C'est bien de peut-être remettre le contexte dans lequel ces paroles sont données. Jésus est bien sûr sur la croix, à ce moment-là, à ses deux côtés, deux brigands. Il est quand même crucifié au milieu de deux brigands, dont la loi donc, les a condamnés à la peine de mort. Jésus se retrouve au milieu de tout ça alors qu'il n'a rien d'un brigand. Et en plus de cela, les Romains, donc à ses pieds, se partagent ses vêtements en se les déchirant. Preuve que Jésus devait avoir peut-être des vêtements de valeur, en tout cas, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, il jouait parce que tiré au sort, en plus, tiens, c'est toi, c'est moi. Enfin, je trouve ça très, très dégradant, en tout cas, pour Jésus. Mais derrière cette histoire et surtout derrière ce verset, il y a trois choses importantes à retenir. La première, c'est que le don gratuit que Jésus nous donne, le pardon de nos péchés, déjà, il n'est pas réservé qu'à nous seuls. Jésus est mort sur la croix pour tous. Pour tous. Nous sommes donc tous au même niveau d'égalité à ses yeux. Et ça, c'est important de le savoir. Parce que vous savez, des fois, bah, c'est la vérité. Je crois que Jésus, par son œuvre, quand on accepte Jésus dans notre vie, quand on découvre Jésus, que cette dimension du pardon, on est des privilégiés, mes frères et mes sœurs. On est des privilégiés. Vous savez comment ils faisaient avant Jésus, comment ils faisaient pour être pardonnés de leurs péchés? Sacrifice d'animaux. C'est des sacrifices. Ils faisaient des sacrifices autant. Autant dire qu'en termes de logistique, ça devait être costaud quand même. Hein? Ici, quand même, le niveau logistique, Jésus nous a quand même pas mal simplifié le travail. Hein? S'il fallait à chaque fois prendre des bêtes, bon, c'était quand même. Et c'est un accès, du coup, à tout moment. À tout moment, nous avons accès à Jésus qui nous pardonne. Pas à Dieu qui nous pardonne par Jésus. Enfin, vous m'aurez compris. Mais c'est pas parce que nous sommes privilégiés que nous le sommes plus que d'autres. Toute personne qui accepte Jésus dans sa vie a ce privilège. Et j'ai même envie de dire que la notion du pardon telle que Jésus est tellement forte que même une personne en prison qui a fait le pire des crimes, si elle reconnaît Jésus sincèrement dans son cœur, elle a le même privilège que nous. C'est incroyable, non? Je trouve ça fou. Pourtant, humainement parlant, c'est totalement inconcevable, mais on a ce privilège-là. Mais vous savez, mes frères, mes sœurs, c'est pas parce que nous sommes des privilégiés que cela nous met au même niveau qu'un juge. Et c'est le deuxième point important. Jésus sait que mieux que quiconque, qui, comment et pourquoi pardonner. C'est pas à nous de le juger ou de faire la justice. C'est pas parce que nous étions un jour condamnés, parce que nous étions condamnés à la base par le péché, que Jésus s'est fait avocat auprès de Dieu, le juge, et nous a donné raison. On a remporté grâce à Jésus, le procès. C'est pas parce que nous avons remporté le procès que nous sommes désormais meilleurs que l'avocat ou meilleurs au même niveau que le juge et que nous sommes aptes à dire, bah, c'est bien toi ce que tu fais ou c'est pas bien ce que tu fais ou c'est un gros péché ce que tu fais ou pas. Seul Jésus l'est. Seul Jésus est capable de faire cette chose-là. C'est important de le dire, mes frères et mes sœurs, mais ici, on le voit très bien dans cette histoire. Jésus, alors qu'il est sur la croix, que les Romains l'ont cloué, alors qu'il n'a rien fait, il dit quand même, pardonne leur père parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh! Il se met finalement, il met ces gens au même niveau que nous. Il demande au père, pardonne-leur. Incroyable. Quel amour, parce que derrière tout ça, bien sûr, ce qui guide Jésus, c'est l'amour. C'est l'amour. Et c'est super important. En fait, Jésus, finalement, quand dans la notion de pardon, vous savez, mes frères, sœurs, il ne regarde pas à la faute que nous faisons, mais il regarde au cœur. Et il ne regarde pas au passé que nous avons, mais il regarde à l'âme qui est à sauver, à venir. Et dans toute la notion du pardon, et notamment les uns avec les autres ou avec les gens qui ne connaissent même pas Dieu. Ayons cet même exemple que Jésus et regardons pas à la faute qu'il nous a fait, mais au cœur de la personne, avec amour. C'est difficile, hein, attention, je vous dis ça, je me pose pas comme si j'étais la personne qui savait le faire. Ne regardons pas à ce qu'elle vous a fait, mais à l'âme qui est encore à sauver. Amen. C'est important. Et dernier point à retenir de cette deuxième partie, c'est que même si le pardon de Jésus est parfait, certains ne l'acceptent pas et ne l'accepteront pas. C'est une réalité, malgré ce que dit la chanson. Nous irons tous au paradis. Non, nous n'irons pas tous au paradis. Certains ne l'accepteront pas. C'est une réalité, c'est tout, c'est comme ça. Mais nous, l'avons-nous accepté et sommes-nous à l'accepter au même exemple de ce que Jésus est capable de faire, comme ici. Parce que Jésus est notre exemple, nous devons donc apprendre comme lui à pardonner, à nous aussi pardonner. À nous pardonner à nous, à pardonner aux autres et à accepter le pardon qu'il nous donne. Dernière partie, eh bien, désormais vivons la réalité du pardon, et notamment la réalité du pardon entre nous. Entre nous. Pour illustrer ça, je prendrai Matthieu 18, versets 21-22. Vous verrez que finalement, tout tourne autour de Jésus. Forcément, c'est un peu logique. Et donc, dans ces deux versets, « Alors Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. Oh » Alors moi, bien sûr, forcément, quand je lis ce verset, prof de maths, 77 fois 7, 539. Ouais, 539 fois. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour vous, messieurs. Quand vous mettez votre chaussette dans le mauvais côté des couleurs, votre femme peut vous pardonner jusqu'à 539 fois. À partir de la 540e, c'est mal. Non, bien sûr, Jésus n'était pas ici en train de faire un compte d'apothicaire, mais il y a bien plus que cela derrière ce message-là. La première chose que l'on peut retenir, c'est que même si cela peut paraître humainement impossible, il n'y a aucune limite, mais aussi aucune raison de ne pas pardonner à son prochain. Et même s'il récidive. Oh, purée. Donc voilà, même si les chaussettes, vous les mettez tous les jours, au bout d'un an, 365 jours, vous avez encore un peu de chance. Non, bien sûr, ici, bien sûr, ce que Jésus donne comme sensation, c'est qu'il dépasse les limites. Ici, Pierre, dit à Seigneur, ok, quelle est la limite ? C'est 7 fois, pas plus ? Non, Jésus repousse la limite. Alors en tant que prof de maths, j'aurais dit 7 puissance, si j'avais été Jésus, bon je ne suis pas Jésus, attention, une fois de plus, mais j'aurais dit 7 puissance 77 fois. Là je pense qu'on déplaçait tout, et ceux qui sont à l'école, j'en vois encore quelques-uns ici qui sont au lycée, savent pourquoi. Ça dépasse encore plus les limites, mais l'idée c'est de dépasser les limites. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons se nourrit de querelles. Il aime bien les querelles. Hein. Vous savez, il y a quelques années, je vais tout vous confesser. Il y a 13 ans, quand ils ont sorti les premiers épisodes des Ch'tis. Vous vous souvenez, les Ch'tis à Mykonos, tout ça? Non, ça vous parle pas? Peut-être. Donc, c'était une série où on mettait des Ch'tis. C'était après la sortie de Danny Boone, on les mettait dans une maison. Et puis, ils faisaient leur vie, c'était une télé-réalité. Ils parlaient un peu en Ch'tis, tout ça. Donc, avec Pauline, on regardait au début. Après, ils ont fait les Marseillais, forcément, pour équilibrer. Au début, c'était rigolo. Et puis, très vite, en fait, on s'est senti en malaise en regardant ça avec Pauline. Pourquoi ? Parce que la trame, finalement, de l'histoire, il n'y avait pas trop d'histoire, en fait. La seule trame, c'était les embrouilles les uns avec les autres. Ils faisaient que s'embrouiller, et ça nourrissait, et puis c'était bien, on était contents. Et moi, je suis montant plus avec un tel, un tel, un tel. En fait, finalement, toute la base de ces séries, c'était des querelles, des embrouilles. Et moi, je ne lui pardonnerai jamais, etc., etc. Bon, on arrêtait de regarder. Mais tout ça pour vous dire que la société dans laquelle nous vivons se nourrit des querelles. Ah, qu'est-ce qu'on aime bien, les querelles. Et même au travail, ah, qu'est-ce qu'on aime bien, les petits potins. M'a fait ça, m'a fait ceci. Moi, c'est ce que j'ai. Peut-être pas vous, mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai. Mais on voit ici, à travers ce verset, que les querelles dans la société, il y en a toujours eu. Si Pierre vient voir Jésus en disant « Combien de fois je dois pardonner ?», c'est que ça ne devait pas être toujours très beau aussi du côté des disciples, etc. Et même dans nos églises, mes frères, mes sœurs, on ne va pas se voiler la face, on ne va pas se mettre des œillères. Il y a encore des querelles. Eh oui. Combien d'églises, malheureusement, c'est triste à dire, se sont séparées, ont fait une scission parce qu'il y a eu un problème. Et derrière cela, quel est le souci? Qu'est-ce qui fait que ça se vit comme ça? C'est qu'il n'y a pas la dimension du pardon qui est vécue. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience de la dimension du pardon. Et ici, Jésus le montre. Chassons les querelles, pardonnez sans fin. Pardonnez même s'il recommence, même s'il récidive. C'est difficile parfois de comprendre, de se dire, mais comment c'est possible? Mais Jésus nous le donne et nous le dit comme tel. Alors, vivons-le. Et en deuxième point, je dirais que dans chacune des situations conflictuelles, et même si cela demande persévérance et lutte avec soi-même, nous devons toujours prioriser la voie du pardon. La voie du pardon. Avant même de savoir, oui, mais il a fait ça, la voie du pardon. Si nous allons tous dans ce sens-là, mes frères et mes sœurs, trois dimensions, hein. On va aller tellement plus vite. Je ne dis pas que ce n'est pas vécu, mais c'est vraiment ressenti comme ça. Le pardon doit être donc une priorité dans notre vie. Vous savez, si Jésus n'en avait pas fait une priorité, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas réunis aujourd'hui. Il n'aurait pas été jusqu'à l'œuvre de la croix. Il ne l'aurait pas fait. Alors comme c'est notre exemple, suivons son exemple. Et c'est si fort, vous savez, ce que Jésus dit et ce que Jésus communique, que il veut tellement que ce soit notre priorité, finalement, qu'il y a plein de versets, j'en ai noté, sur le pardon, on pourrait en prendre plein, mais je prends par exemple Matthieu 6 qui dit quand même, c'est fort, le Père ne te pardonnera pas si tu ne pardonnes pas à l'autre. Ça fait un peu notre Père, la prière, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi, comme si c'était une condition, si je pardonne, je serai pardonné. C'est fort quand même. Il y a un Jean qui dit aussi, tu peux dire que tu aimes Jésus, mais si tu ne pardonnes pas, c'est que tu es un menteur. C'est fort quand même, hein ? C'est costaud. Encore une fois, le pardon, priorité. Et puis, il y a bien sûr cette image, parce que nous allons la prendre juste après, mais au moment de prendre la scène, bien sûr, ne prends pas la scène si tu as des soucis, va régler le problème, va dans le pardon avec ton frère et ta sœur, et là, reviens à prendre la scène après. Important. Alors, j'allais en parler dans... Tu fais une bonne introduction sur la dernière partie, notamment souvent ce qui nous empêche de pardonner, c'est l'orgueil, c'est notre fierté. Donc ça, on va en parler ici. Moi, ce que je répondrais, tu vois, je vais te dire deux choses. La première chose, je pense que si tu as pardonné, tu as fait ta part des choses. Donc aux yeux de Dieu, tu es en règle avec ce que le Seigneur te dit. Comme on voit ici dans l'exemple, Jésus dit « Père, pardonne-leur », parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire que Jésus pardonnait à ce moment-là ces Romains. Est-ce que les Romains, eux, ont accepté le pardon de Jésus? Je pense qu'ils n'en avaient rien. Mais Jésus montre que lui, il a fait sa démarche. Je pense que toi, tu as fait ta démarche. Et récemment, j'ai un ami qui me parlait d'une situation comme toi, c'est son frère. Il était en embrouille avec son frère, il me dit « Oh, mon frère, machin, etc., je ne peux plus le voir, etc. » Et je l'ai amené vraiment à dire « Écris-lui une lettre, demande-lui pardon, vis cette réalité du pardon. » Oui, mais il ne pardonnera jamais, lui. Ce n'est pas grave. Jésus ne demande pas te demande juste toi de faire ta démarche. Si tu fais ta démarche, tu es en paix avec le Seigneur. Et tu peux te sentir en paix avec toi-même. Le reste, j'ai envie de dire, et on va le voir juste après, prie pour ta sœur. Prie pour ta sœur. Pour qu'un jour, elle puisse peut-être se rendre compte, mais avec amour, parce que c'est l'amour qui guide Jésus, prie pour que cette réalité, dimension du pardon, puisse être vécue dans les deux sens. Ouais. Je me doute. Ouais. Ouais, écoute, je pense que on va prier tout de suite pour toi, si tu le veux bien, parce que en effet, moi, je me mets aussi à l'image. Enfin, moi, je vois mes enfants. On en parlait avec mon épouse. Je vois mes enfants et on se disait plus tard, ce qui nous rendrait le plus triste, c'est de voir nos enfants comme ça. Et je peux comprendre cette dimension-là. Et tu sais, là où ce qui peut paraître humainement impossible, Jésus l'a rendu possible. Donc, on va prier pour que ce que tu viens d'exprimer, tu puisses le vivre et ta maman puisse le vivre. Et pour aussi. Et puis pour tout le monde, parce que, à mon avis, c'est bien que tu aies levé la main. Je pense que peut-être beaucoup de personnes vivent ou ont vécu, ont forcément ces dimensions-là et ces situations-là. Amen, Seigneur. Ton prénom, c'est Sylvie. Seigneur, mon Dieu, je te prie tout de suite, Père éternel. Je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, déjà maintenant, parce que peut-être, Seigneur, dans ce qui est partagé, on s'y retrouve tous dans des situations comme ce que vécu Sylvie. Seigneur, merci déjà, Seigneur, pour son cœur, Seigneur, qui a voulu et qui a pris cette dimension du pardon, Seigneur, dans cette situation. Nous prions, Seigneur, pour sa sœur, Père éternel, qu'elle puisse, Seigneur, comme avoir une révélation, Père éternel, dans les jours, dans les semaines à venir, Père, que cette situation n'est plus tenable, mais qu'elle aussi, elle puisse entrer dans ce pardon, afin que ce soit mutuel, Seigneur. Je prie pour cette famille, Père éternel, je prie pour nos familles, pour toutes les querelles, mais que, Seigneur, que le pardon puisse être au milieu, que tu puisses être au centre, Père, de ces situations, afin, Seigneur, que dans ce cas-là, Seigneur, cette maman puisse se réjouir de voir ses enfants réunis, Seigneur, et chasser, Seigneur, toutes ces, peut-être, embrouilles ou autres qui ont pu se faire, mais Seigneur, vivre cette véritable paix, cette véritable, Seigneur, liberté, ce véritable pardon dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Je prie maintenant, Seigneur, pour une bénédiction particulière sur nos familles et pour cette famille. Amen. Amen. Et pour nos familles. Alléluia. Et ça tombe bien, donc, ce que tu disais, parce que ça introduit le dernier point qui sont importants. Comme tu le disais, Jésus peut nous aider à vivre cette réalité du pardon, même dans les situations les plus compliqué. Il suffit de lui demander. Ah, des fois, ça ne prend pas, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, on ne va pas se mentir. Mais si nous faisons notre démarche, le Seigneur voit notre cœur. Voit notre cœur. Seigneur, Jésus est un... Enfin, on le voit dans les exemples qu'on a lus, il n'est pas quelqu'un qui aime les querelles. Il veut le pardon, il veut la paix. Alors, je ne vois pas pourquoi, si nous lui demandons pas, il ne le permettra pas. Bien sûr, souvent, c'est l'orgueil qui nous empêche de faire. L'orgueil mal placé. Moi, je me rends compte personnellement, je vais vous le dire, elle va être contente, mon épouse. Mais souvent, quand je fais une bêtise à la maison, elle me dit « Tu ne demandes jamais pardon !» Et en fait, quand je réfléchis au fond, c'est parce que je suis orgueilleux, que je suis fier. Quand je mets mes chaussettes dans le mauvais bac et qu'elle me dit « T'as encore mis les chaussettes dans le mauvais bac ?» Ce qui n'est même pas vrai d'ailleurs, mais je prends l'exemple. Ben, je fais « Ah, c'est bon, j'ai juste mal visé. » Alors que je sais que je l'ai juste mis comme ça et que ça, je m'en fichais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'orgueil qui nous guide souvent. Alors, bien sûr, derrière cette notion du pardon, prions pour que l'orgueil nous empêche pas de le vivre. Il n'y a pas de fierté. C'est de la fierté mal placée souvent. Jésus n'avait pas de fierté mal placée. S'il avait été fier, Jésus, il n'aurait pas été s'humilier sur une croix pour nous. Donc chassons et demandons-lui. Vous savez, des fois, c'est humainement impossible, mais demandons. Jésus a su rentrer dans cette dimension-là. On a un accès au Père, alors prions. Prions pour nos frères, nos sœurs, prions pour nos amis, prions pour nos collègues de travail qui nous cassent les pieds. Et prions pour eux. Alors, c'est le moment de la conclusion. Je vous avais dit, je ne vous ai pas trop embêté avec les mathématiques. Je vais vous embêter avec les mathématiques. On est tombé sur une série, ça m'a fait penser à ça. Peut-être vous connaissez la série This Is Us. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. On est tombé sur cette scène-là, et puis... Moi, ça m'a fait penser à beaucoup de choses. J'ai fait le lien avec les maths, c'était un peu de maths, donc voilà. Vous savez, quand on est, peut-être vous en souvenez, ça va vous rappeler des souvenirs, quand on parle de trois dimensions en mathématiques, c'est les volumes. Les volumes. Et le volume que l'on préfère quand on est à l'école, parce qu'il est facile à dessiner, parce qu'il est beau, parce que tout est carré, c'est le cube. Le cube, on aime bien le cube. On aime bien le cube parce que tout est carré. Et dans nos vies, mes frères et mes sœurs, c'est toujours mieux quand tout est carré. On aime bien. Enfin, on essaye en tout cas. Quand c'est carré, on a l'impression en tout cas que c'est plus solide, que c'est plus, ça peut moins se casser. Pourtant, mes frères et mes sœurs, le cube n'est pas si solide que ça. Il vous suffit de donner un bon impact sur le dessus, sur la face du dessus, et tout se casse. Et tout se casse. Le véritable solide ou 3D ou volume qui est vraiment costaud, c'est la pyramide. La pyramide. C'est pas pour rien si les Égyptiens ont construit des pyramides. Pourquoi ? Parce que la base est carrée. Donc ça reprend un peu l'idée du cube. Il faut que ce soit carré, notre base, dans notre vie. Quelque chose de carré pour que ce soit solide. Mais tout autour, c'est des triangles. Et si nous appuyons cette fois de force sur le sommet de la pyramide, eh ben ça sera plus difficile de le casser qu'un cube. Il y aura moins de failles. Alors si nos vies devaient être comme des pyramides avec une base carrée, Christ, tout autour, et que nous devrions prendre des triangles pour faire ces faces latérales, si nous devions choisir un des premiers triangles, c'est celui que je vous ai présenté au départ. Et je remonte tout. Celui-ci, le triangle du pardon. N'oublions jamais d'en faire une priorité dans notre vie, et pas simplement de le voir comme une notion entre moi et l'autre, mais de mettre Jésus au centre, de mettre Dieu au centre. Parce que c'est ce qui fera qu'on entrera dans une véritable dimension du pardon avec lui. Voilà, je vous laisse là-dessus.